Interview. 1.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Ismo au micro de Erdiwa. Et pour l'interview du jour, je suis avec Sébastien Vrayen. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ismo.
Alors, tu es présent aujourd'hui pour nous parler d'une conférence que tu vas mener vendredi prochain, vendredi 17 avril.
Oui, ce vendredi donc.
Vendredi. Ouais. Et c'est une conférence sur Tolkien.
Oui, c'est ça.
Donc, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Je crois que tout le monde a entendu parler du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et de cet univers de la Terre du Milieu. Toi, tu es un passionné de l'œuvre de Tolkien?
Oui, depuis assez longtemps, et puis de manière graduelle, quoi. Enfin, comme pas mal de monde, je suis tombé sur le Seigneur des Anneaux quand j'étais ado, quelque part entre le collège et le tout début du lycée. Et je connaissais pas du tout, c'est juste des potes qui étaient dans la cour, ils parlaient de choses auxquelles je comprenais rien du tout. Je suis arrivé vers eux, j'ai dit, mais de quoi vous parlez là? Et ils m'ont dit, le Seigneur des Anneaux. Et j'ai dû faire une tête un peu bizarre. Ils m'ont fait, quoi? Tu ne connais pas le Seigneur des Anneaux? Ben non, il faut absolument que tu lises, ça va te plaire. Et bouffe, là je me suis fait prêter les trois tomes du Seigneur des Anneaux, que... Je me rappelle fort bien, le premier tome, j'ai dû le bouffer en deux jours. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il ne restait plus que deux tomes derrière, j'ai décidé de lire un chapitre par jour, très lentement, parce que je ne voulais pas que ça s'arrête en fait. Et puis après Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Bilbo le Hobbit, et puis peut-être un an plus tard, parce que là la lecture est quand même un peu plus ardue, le Silmarillion.
Le Silmarillion est sorti après Le Seigneur des Anneaux.
Le Silmarillion est sorti après Le Seigneur des Anneaux, ouais. Mais par contre, il a été écrit essentiellement bien avant.
Ah oui.
C'est-à-dire, le Silmarillion, c'est un choix de texte parmi différentes versions que Christopher Tolkien, le fils de John Ronald Reuel Tolkien, a fait, a rassemblé pour faire un peu le... On dirait aujourd'hui le préquel du Seigneur des Anneaux. Mais en fait, c'est tous des textes qui ont été écrits, en gros, entre 1911, pour les plus anciens, et 46, 47, pour les tout derniers éléments. Plus d'incessants remaniements encore pendant des années, quoi. Et donc, en fait, dans différentes versions... Il y avait des choses qui se contredisaient, en fait, c'était très compliqué. Et Christopher Tolkien a fait un boulot énorme.
Compiler
tout ça. Tolkien père était un peu bordélique, il y avait des petites notes écrites au crayon sur des bouts de papier depuis des dizaines d'années. Donc le crayon, ça a tendance à s'effacer. Donc c'est des fois à la loupe qu'il fallait relire les noms, les dates, les trucs.
Un travail d'archéologue presque.
Oui, il a fait de l'archéologie là, avec les travaux de son père, le Christopher. Énorme. Et c'est grâce à lui qu'on a accès à Silmarillion un peu organisé. Quoi, donc.
Et en fait, Le Seigneur des Anneaux, donc la trilogie, a été écrite par la suite
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il a écrit le Bilbo le Hobbit, qui au départ n'est pas spécialement intégré à tous ses autres écrits, qu'on retrouvera plus tard dans le Silmarillion. En gros, Bilbo le Hobbit, c'est un peu parti comme il avait l'habitude d'en faire pour ses enfants. Il avait déjà écrit pas mal de textes pour ses gamins, qu'on retrouve dans Les Lettres du Père Noël, Rover Random, Les Aventures de Tom Bombadil. C'était des trucs complètement épars, comme ça. Il y en avait de toutes sortes de styles, et dont il faisait cadeau à ses enfants. Quoi. Il leur lisait le soir. Et Bilbo, au début, ça vient un peu comme... comme un nouveau conte à proposer à ses gamins, quoi. Et puis en fait, en avançant dans l'écriture, il se rend compte que là, il y a quelque chose, et il va commencer à... Au début, ça s'est fait de manière, je pense, plus ou moins inconsciente, mais à consciemment lier certains éléments de Bilbo le Hobbit à des textes qu'il avait écrits avant sur la chute de Gondolin, ou les guerres du Beleriand et autres, enfin toutes sortes de textes qui concernent essentiellement les elfes. et qui ont été écrits pour la plupart, hein, on va dire entre 1911 et 1926, 27, 28. Et donc là, il va tisser les liens, un peu commencer à tisser les liens entre le monde de Bilbo, le Hobbit, et ses textes plus anciens. Et quand son éditeur lui demandera une suite à Bilbo, le Hobbit, ben, en fait, il va laborieusement se lancer dans la rédaction du Seigneur des Anneaux, qui va le conduire à opérer des révisions du texte de Bilbo pour que ça colle.
Ah oui.
Et en fait, quelque part, maintenant, ce qu'on pourrait avoir, si on... Alors là, on est à la radio, c'est pas évident. Mais si vous imaginez deux triangles, deux poids de triangles qui se touchent, enfin un peu la forme d'un sablier. C'est un peu comme si on avait, en partant du bas, le Seigneur des Anneaux, où en fait on va avoir deux versants à l'histoire. Donc les deux pentes d'une montagne. Donc d'une part une antiquette, c'est-à-dire la destruction d'un objet qui est déjà présent au début. Le contraire d'une quête. Hein.
Ok, ouais.
Ah, genre la quête du Graal, quand on fait la quête du Graal, hop, ils n'ont pas le Graal au début.
Non, ils vont le chercher.
Ils le cherchent.
Oui.
Le Seigneur des Anneaux, c'est tout l'inverse. C'est l'objet central, l'artefact central, il est déjà dans les mains des protagonistes au tout début de l'histoire. Et le but, c'est de s'en débarrasser.
L'anneau.
Définitivement, l'anneau. Donc là, c'est le versant antiquette et puis le versant guerre. Le Seigneur des Anneaux, c'est une guerre, en fait, entre les différentes forces humaines, naines, elfiques qui restent encore en place et les armées de Sauron. Et en fait, on a comme ça une pointe qui arrive au dénouement final, hein, le couronnement d'Aragorn et son mariage avec Arwen, la fille du seigneur elfe Elrond. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que tout ce qui a été écrit auparavant via... Et ça, c'est un travail de réécriture et d'assemblage. C'est ça qui a pris du temps à Tolkien, dans la 17 ans de rédaction du Seigneur des Anneaux. On se rend compte qu'en fait, tout ce qui a été écrit auparavant, en tout cas tout ce qui a été choisi après par Christopher comme correspondant bien à l'esprit du Seigneur des Anneaux, vient converger dans ce moment du couronnement d'Aragorn. Il y a un truc là qui fait que, en gros, on est au bout de l'histoire. D'ailleurs, on est tellement au bout de l'histoire que... quelques années plus tard, Tolkien a essayé ensuite d'écrire une suite au Seigneur des Anneaux.
Ok, ça on ne savait pas ça.
Ça s'appelait The New Shadow. Donc en fait, la nouvelle ombre, mais une meilleure traduction, c'est une nouvelle ombre. Et donc il imagine une vie en Gondor, hein, le royaume d'Aragorn, sous le règne de son fils, et du fils d'Arwen, Eldarion. Et donc sous le règne d'Eldarion... Il y a une espèce de complot qui se trame. Enfin, on entend des bruits de couloirs bizarres, des sociétés secrètes. Et en gros, Tolkien écrit pour une espèce de... Enfin, voir une résurgence du mal, quoi. Un peu un énième avatar du mal sur Arda.
La nouvelle ombre.
La nouvelle ombre. Et en fait, au bout de 12 pages, il s'est rendu compte que ça marchait pas, qu'il s'emmerdait à l'écrire.
Ah ouais.
Que, en fait, bon, s'il avait continué, il aurait eu peut-être le premier vrai roman de Dark Fantasy, qui est un genre qui s'est développé quand même un peu ultérieurement, hein, qui est bien postérieur au Seigneur des Anneaux. La Dark Fantasy, c'est un peu les années... ça commence un peu tout début des années 70, mais c'est pas très très marqué. Et puis de plus en plus, ça avance, ça se développe bien au tout début des années 80, la Dark Fantasy. Là, il aurait pu avoir quelque chose comme ça, quoi, une espèce de policier, sombre, fantasy. Un peu magique, mais un peu roman policier, enquête, voilà. Bref, ça ne l'amusait pas du tout. Mais je pense qu'en fait, la vraie raison, c'est que c'est ce coup de l'image du sablier, les deux triangles dont la pointe se touche l'un sur l'autre.
Ouais.
C'est-à-dire que tout le Seigneur des Anneaux converge vers le couronnement d'Aragorn, et quelque part, a posteriori, toute l'histoire de la Terre du Milieu vient se cristalliser dans ce moment du couronnement d'Aragorn. Ne serait-ce que déjà à travers les différentes généalogies, puisqu'en fait, ça c'est un des trucs de Tolkien, c'est que pour donner de la profondeur temporelle à son monde, il va développer des généalogies sur des milliers d'années, quoi, en fait.
Ah, des milliers d'années.
Des milliers d'années. Aragorn et Arwen, en fait, c'est des cousins. Sauf que ces quatre générations du côté d'Arwen, qui est une elfe,
oui,
avec des milliers d'années de vie, et ils ne font pas beaucoup d'enfants, ils les font très tard, et voilà. Et des générations humaines de 25 ou 30 ans, qui s'empilent les unes sur les autres pendant des milliers d'années, pendant, que je dise pas trop de bêtises, mais pendant 6000 ans, plus de 6000 ans.
Ah ouais.
Donc en nombre de générations humaines, ça en fait quelque chose comme 300. Mais du côté elfique, ça n'en fait que 4. Mais Aragorn et Arwen sont des cousins, très 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 éloignés. Mais tout ça, toute cette généalogie, en fait, elle s'explique dans les différents contes
où on structure,
qui structurent le Silmarillion. Ah. Et donc, en fait, tout ça vient converger à ce moment-là.
Okay.
Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'était pas une question non seulement de... Peut-être que Tolkien même ne l'a pas vu comme ça, de s'emmerder, écrire une suite, La Nouvelle Ombre, machin. Mais en fait, c'était juste pas possible. Le règne des hommes a définitivement commencé. Et en fait, tu peux écrire une suite, mais ce sera pas une suite. Ça devient complètement une autre histoire, en fait. Parce que tu vas sortir de cet entonnoir qui amenait tout au couronnement d'Aragorn, en fait.
On sent derrière ton explication tout l'intérêt, toute la passion que tu as développée pour ce sujet-là. Mmh. Tu as fait des recherches, je suppose.
C'est beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, quelques petites découvertes aussi. Hein, pas rien qu'à bouleverser la compréhension du roman ou de tout ce qu'il y a autour. Hein, mais à force de gratter, on finit quand même par trouver des choses...
Surtout avec Internet.
D'ailleurs, j'en ai trouvé une là, pour la conf de vendredi.
Ah.
C'est quelque chose que, en préparant le sujet, que je n'avais jamais vu nulle part. Parce que juste, je me suis posé une question annexe. Parce qu'en gros, moi, je m'intéresse pas mal à l'histoire antique, l'histoire médiévale. Mais l'histoire moderne, en gros, 14e, pas par dire du 14e, tout ça, ça m'intéresse beaucoup moins. Et donc, en fait, dans la biographie de Tolkien, je suis tombé sur un événement qui est daté du 16e siècle. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça raconte, ce truc ? Et donc, j'ai été voir. Et en fait, en grattant cet événement, que je ne vais pas spoiler, mais en grattant cet événement, je suis tombé, en fait, sur une source d'influence, donc un élément historique qui a été incorporé au roman.
Okay.
Et que, à ma connaissance... Alors, j'ai pas lu tout ce qui a été écrit sur Tolkien dans toutes les langues du monde.
Hein. Oui, j'imagine. J'imagine, ça doit être faramineux.
C'est impossible. On peut pas tout lire. Par contre, j'en ai lu vraiment beaucoup, et ça, je l'ai vu nulle part. Donc, c'est peut-être quelque chose de tout neuf. En tout cas, à tous les coups, c'est quelque chose dont l'immense majorité des gens qui s'intéressent un petit peu, comme ça, ou même qui aiment bien, qui sont fans, n'ont probablement jamais...
Jamais
arrivé à leur connaissance, quoi, en fait. Ouais. Alors, c'est pas fondamental, hein, mais c'est le genre de petites choses qu'on peut faire, de petites découvertes qu'on peut faire quand on se met à gratter. Il y a toujours quelque chose,
quelque chose à
découvrir. Hein. Ouais. Ouais,
parce que tu parlais de l'influence donc historique, a priori, que Tolkien a peut-être utilisé lors de ses écrits. Mmh. Et j'imagine aussi que il y a une influence folklorique aussi.
Oui.
Je pense que ces êtres un petit peu imaginaires, les elfes, les orques, les gobelins, c'est pas lui qui a inventé cette dénomination.
Non.
Ça existait déjà.
Ah ben les elfes, on les trouve déjà dans l'Edda poétique, donc qui est une compilation de textes de mythologie scandinave.
Ah oui.
Qui a été faite par un gars qui s'appelle Sturluson en langue norroise au XIIIe siècle. Mais c'est des traditions orales. Enfin, c'est la première fois qu'elles ont été fixées par écrit. Hein.
Ah
alors,
oui.
Alors Sturluson, il est chrétien. Hein. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des histoires païennes, d'autres mythologies que la mythologie chrétienne. Et il va les écrire, et c'est un peu les seules sources qu'on ait, en fait. C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même un filtre hein, de la tradition chrétienne sur ces vieilles histoires païennes. On ne peut pas prendre pour argent comptant tous les micro-détails, parce que certains peuvent avoir été éliminés et d'autres ajoutés, justement, pour mieux correspondre au canon...
spirituel de l'époque.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Ouais, ouais.
Mais les elfes sont déjà présents dans ces textes, hein, donc, par écrit, on les a depuis au moins le XIIIe siècle. Oralement, c'est encore plus ancien, évidemment. Les gobelins, on les trouve alors à minima, comme ça je suis sûr de ne pas dire une bêtise, à minima chez un auteur qu'on ne qualifiait pas à l'époque de fantasy, mais que Tolkien a lu quand il était jeune, qui est MacDonald, je pense, qui décrit des histoires avec des gobelins, vers 1880. Mais je pense que lui-même a été chercher le mot ailleurs. Les trolls, évidemment, troll, ça c'est une créature légendaire des récits scandinaves, hein, depuis longtemps. Hein, il y a énormément d'influences, on va dire, vieille anglaise,
oui.
Germanique,
un peu
celtique, un peu scandinave.
Oui.
Mais aussi des influences beaucoup plus, enfin, pas éloignées de nous, parce que bon, grec.
Ah oui, aussi.
Ouais.
Ok.
Oui, notamment, il y a une transposition du mythe de l'Atlantide, puisqu'en fait, il y a cette fameuse histoire de Númenor, qui est une île que les... Alors, je vais le faire au niveau où c'est perçu, comme ça, à l'époque, dans les contes, qui est donnée par les dieux aux hommes de trois peuples pour les remercier de leur combat contre Morgoth, hein, le Melkor. La première incarnation du mal sur Arda, la Terre, dans le monde, dans l'univers d'Arda. Et donc, en fait, les humains, aux côtés des elfes, se battent contre Morgoth et ses armées. Et en fait, pour les remercier, ben, les dieux leur offrent une super belle île, l'île du Don, ça veut dire Númenor, au large des côtes occidentales de la Terre du Milieu. Et à la tête de cette île, on trouve le frère d'Elrond. Elrond, ça c'est quand même peut-être un nom qui dit quelque chose à ceux qui ont au moins vu les films de Jackson. Hein, c'est l'elfe qui est le père d'Arwen, hein, dont je parlais tout à l'heure.
Hein. Oui,
c'est,
ok.
C'est le beau papa de Aragorn.
Ouais.
Et son frère, lui, a été le premier roi de Númenor. Et ensuite, ils vont succéder toute une série de rois jusqu'au dernier, Ar-Pharazôn, qui, après avoir capturé Sauron, qui s'est plutôt laissé capturer, va le garder prisonnier, mais en fait Sauron va finir par embobiner le roi, sa cour, les nobles, tout ça, à coups de discours et de promesses complètement fallacieuses, mais auxquelles ils vont finir par croire. Résultat des courses, ce crétin d'Ar-Pharazôn décide, bon, c'est la puissance de Númenor, c'est énorme, hein, c'est un peu Byzance,
ah ouais.
Ouais, c'est un peu un équivalent de Byzance comme okay. Ça, Númenor. Sa puissance et sa culture sont absolument phénoménales, puissance militaire. Et il monte une flotte colossale pour faire rien d'autre que d'aller attaquer les terres immortelles à l'ouest, là où vivent
les dieux.
Les dieux et les plus hauts des elfes. Évidemment, le créateur de toutes choses n'apprécie pas le geste. Donc sur Númenor, ils avaient même édifié un temple à Morgoth qui s'était mis à vénérer à la place de, je sais pas, rendre grâce à Manwë ou à Eru, le créateur de toutes choses. Et donc la famille d'Aragorn, enfin les ancêtres d'Aragorn, eux s'inscrivaient dans une lignée qui est restée fidèle à cette tradition elfique. Mais la plupart des Númenoréens sont tombés
du côté obscur
de la force. Et donc, en fait, ils se sont lancés à l'assaut des terres immortelles pour aller un peu expliquer aux dieux que tatati, tatata, tout ça n'allait pas. Résultat, Eru a déclenché une tempête gigantesque qui a entraîné la submersion totale, la destruction totale de Númenor. D'accord. Donc, c'est l'Atlantide, en fait.
D'où l'influence de... Effectivement.
Là, par exemple, on a une influence des mythes grecs. On a aussi une influence grecque... Parce qu'au début de la création du monde, c'est le verbe qui est à l'origine de la création. Eru, le créateur, le père de toute chose, que les elfes appelaient Ilúvatar. Donc dans Vatar, on entend Vador, father, tu vois, le père.
Ah ouais, wow. Donc
c'est le père de toute chose. Puisqu'en ouais. Fait, les langues germaniques, notamment la langue anglaise, sont censées dériver des langues elfiques.
Ah,
et oui,
ça,
dans la conception de Tolkien,
c'est... Ah oui.
Voilà. Donc les elfes l'appelaient Ilúvatar, le père de toute chose, et c'est... C'est lui qui... Alors, je n'ai pas raconté tout la création du monde, là, Inulindale, mais en gros, à un moment, il va dire « Ea », que cela soit, et hop, le monde est. Et ça, c'est le timé de Platon, en fait. C'est le verbe...
Créateur.
C'est le verbe créateur.
Absolument.
Donc là, on a une autre influence grecque. Et puis après, on va trouver des influences linguistiques encore plus éloignées. Par exemple, le langage des nains, le Kuzdoul... Il est fortement, enfin, les quelques bribes de Kuzdoul qu'on a sont fortement inspirées du Hittite, puisque le Hittite venait d'être, enfin venait, Si, à peu près. Il a été découvert et dans les années 1910, quelque chose comme ça. Donc, Tolkien était à peu près aux études, en fait. Il commençait à s'intéresser aux langues.
Tu peux juste rappeler la période, les dates de naissance, de décès de Tolkien
et il est né en 1892 et mort en 1973. C'est un homme du XXe siècle, en fait.
C'est un homme du XXe siècle, qui a vécu deux guerres, alors.
Qui a vécu deux guerres, ouais.
Ah oui.
Ouais. Enfin, la première, il n'a pas beaucoup combattu, pour notre plus grand bonheur, parce que... Il se distinguait pas par une santé de fer et un grand courage physique. Voilà. Et donc, en fait, par chance, il a beaucoup été malade et il a fait beaucoup d'allers-retours entre le front, il était sur la Somme, et les hôpitaux.
Mais son expérience du combat, en tout cas du peu qu'il en a vécu, a certainement dû nourrir par la suite.
Ah, mais c'est dans les tranchées qu'il a écrit La chute de Gondolin. La chute de Gondolin, c'est une cité elfique. Gondolin, c'est une cité elfique cachée pendant les guerres du Beleriand. Et en fait, qui va être envahi par le plus fort des armées de Morgoth, des dizaines de milliers d'orques, centaines de milliers, des dragons, des trucs pas possibles, des balrogs. Balrog, le démon de feu que Gandalf combat sur le pont de la Moria, c'est le dernier balrog, mais en fait, il y en avait plusieurs. Et toute cette armée formidable va déferler sur Gondolin, parce que le secret de son emplacement aura été dévoilé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comment ni pourquoi, mais bref... La cité est ravagée, les survivants doivent fuir, cette destruction doit beaucoup aux Balrogs, notamment.
Et cet épisode a été écrit dans les tranchées.
Dans les tranchées en 1916. C'est un des épisodes les plus violents en termes de bataille que Tolkien a écrit.
Si jamais vous prenez cette émission en cours, chers auditeurs, je vous rappelle que je suis avec Sébastien Vrayen, qui va faire une conférence sur Tolkien vendredi 17 à 18h à la salle de motricité à Châtillon-Diois.
Mm-hmm. Conférence dont le thème est Jeunesse d'un univers. Donc là, on va s'intéresser aux différentes sources.
Donc un peu à la cosmologie.
Voilà, enfin, on va passer, on va faire un petit point d'étape sur la cosmo interne, c'est-à-dire comment, dans le roman, enfin dans les textes plutôt, comment est né le monde.
Dans l'œuvre de Tolkien.
Voilà. Mais aussi les influences qui peuvent être biographiques, de lecture, familiale, mythologique.
Ce que tu disais en début d'émission.
Voilà, un peu en suivant les premières années de la vie de Tolkien. En fait, en gros, de sa naissance à... Je crois que je me suis arrêté vers 1910, 1900, à peu près par là. Parce que j'ai à peu près estimé que... Bon, d'abord, ça aurait été beaucoup trop long de faire tout.
Oui.
Mais en gros, vers 1910, Tolkien a toutes les cartes en main au niveau des savoirs. Des références familiales, de ses poids de bio. Il a tout en main pour tout ce qui peut être considéré comme des influences externes vers l'intérieur de l'œuvre, il les a déjà. Donc là, c'est pour ça que je m'arrête à peu près à cette période-là. En gros, quand il commence, en deuxième année de fac, à Oxford, voilà.
Ok.
Donc c'est une petite vingtaine d'années, quoi.
D'accord, donc cette conférence... va être plutôt concentré sur cette partie de sa vie.
Oui.
C'est ça. Hein,
voilà.
Sur donc un peu comment est-ce qu'il a pu récolter.
C'est ça.
Comment toutes ses influences dans des lectures, ouais. Dans des recherches.
Oui. Des rencontres, des faits biographiques, parce qu'en fait c'est très difficile dans un format d'une heure et demie comme ça de. J'aurais pu prendre aussi un perso et on aurait pu passer. Ou par exemple, je sais pas moi, la botanique sur Arda. Et en fait, on aurait pu passer 2 heures à faire de la botanique.
Parce qu'il y a des descriptions dans son œuvre littéraire sur la botanique, sur la faune, la flore aussi.
Oui, tout à fait. Donc on aurait pu, j'aurais pu prendre un truc comme ça. Mais en fait, le problème avec ça, c'est Bah, si le public connaît à peine Tolkien, il n'a peut-être pas envie de se taper une heure et demie de description de la feuille des rois, tu vois, et du Malorn et de ceci. Enfin, tu vois,
c'est... Ouais, ça s'adresse un peu plus aux spécialistes,
c'est
peut-être.
Ça, ouais. Ouais. Donc, en fait, en prenant le poids par la bio, c'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas lu l'histoire d'une vie, bah, ça parle à tout le monde. Quoi. En fait, tout le monde est né, a été à l'école, a eu peut-être un frère, une sœur, des parents. Donc, tout ça parle à tout le monde.
Oui.
Ça peut faire écho. Même si Tolkien est quand même un être assez, assez particulier. Juste en glissant comme ça, en gros, à 5 ans, il avait déjà des rudiments de latin. Et il savait lire et écrire.
Ah ouais?
Oui.
À 5 ans?
Oui. Ah ouais. Même, les rudiments de latin, il savait lire et écrire à 4 ans. Il a commencé à lire et écrire à 4 ans.
Ah ouais, ça c'est pas commun ça quand
c'est
même.
Pas commun.
Ah oui.
Donc tout le monde n'a pas ce genre de vie là, quoi, évidemment. Mais puis il a une vie aussi assez terrible, quoi. Il a perdu très jeune ses deux parents. Ça compte aussi.
Oui, certainement, oui.
Je rappelle que Frodon n'a pas de parents dans le livre. Ses parents, en fait, se sont noyés quand il était petit.
Ok.
Ils faisaient de la barque et je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont tombés de la barque. Bon, les hobbits et l'eau, c'est pas terrible. Hein, mais le père de Frodon était un peu aventureux, quoi. Il emmenait sa femme en barque et plouf.
Ah.
Et Frodon est devenu orphelin.
D'accord, ok.
Et il a été élevé par son oncle, Bilbon.
Un peu comme Tolkien, quelque part, quoi.
Ouais. Tolkien n'a pas vécu vraiment avec ses parents, quoi. Avec son père, quasiment pas du tout. Et avec sa mère, très très peu. 1906... Ouais, c'est ça, il avait 14 ans.
Ah oui, ça fait jeune. Hein.
Ça fait jeune.
Ah,
hein.
Oui,
et
oui,
le père,
oui.
Il avait 4 ans. Tu vois.
Et oui, il y a forcément un espèce de traumatisme qui est issu de ça et qui doit se retrouver dans son œuvre également.
Oui.
Et toi, tu as effectué quand même pas mal de recherches. On sent que tu t'es bien documenté là-dessus.
Ah ben, j'ai fait ça pendant des années. Quoi, et c'est... En fait, je ne me suis jamais arrêté.
Tu t'es jamais arrêté. C'est une passion.
Ouais.
C'est important pour toi de faire cette conférence?
Ben, en fait, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire un truc pour le... Au départ, je pensais au village, à Châtillon.
Oui.
Voilà, petit truc, bon, je sais faire quoi, je sais parler de Tolkien.
D'accord.
Donc c'est venu comme ça.
C'est une volonté de faire un truc dans la commune dans laquelle tu vis.
Voilà, ouais, c'est ça.
C'était vraiment le... partager ta passion, ton savoir.
Ouais.
Ok.
Ouais, c'était vraiment ça la motivation, quoi. Je vois pas quel autre, d'ailleurs.
Bah déjà, c'est une belle motivation. Et est-ce que, par hasard, ça t'arrive des fois d'entretenir donc des conversations avec d'autres passionnés comme toi?
Pas
peut-être
depuis
dans
un
d'autres
moment
pays,
si,
peut-être
pas depuis un moment. À l'époque où j'étais dans l'association Tolkien Deal, évidemment, c'était... Mais là, on discutait vraiment aussi de poids de détail, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Parce qu'à un moment, ça devient quasiment de la recherche, quoi, en fait. Tu vois.
Ah bah c'est l'impression que ça me donne, effectivement.
C'est-à-dire, bah, y a des... Moi, j'ai pas fait les études qu'il faut, tu vois. J'ai pas fait de philologie, j'ai pas fait de littérature comparée. Je suis pas historien médiéviste, mais en fait, je me suis intéressé...
Mais tout ça est présent
mais je me suis
dans
intéressé,
l'œuvre de
Mais je me suis intéressé
Tolkien.
À tout ça. Enfin, pour l'histoire médiévale et antique, ça c'est parallèle. Ça n'a joué avec Tolkien qu'après. Ça m'a toujours intéressé, en fait. Mais j'ai pas les formations académiques, tu vois. Mais en gros... Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai fait ce qu'un chercheur en littérature comparée ferait, quoi. C'est-à-dire le rat de bibliothèque et voilà. Et
la recherche des sources.
C'est ça, la recherche des sources, des textes.
Parce que tu disais que tu serais capable de faire une conférence juste sur la botanique dans l'univers...
Oui, voilà, il faudrait que je prépare pendant... Il faudrait quelques heures pour préparer, mais
on s'aperçoit que...
Je saurais très vite où aller, quoi, oui. Ouais.
De la botanique, de la philosophie, de l'histoire... Des langues.
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues. Hein.
C'est des choses qu'il a complètement inventées,
Oui, au moins une douzaine de langues minimum, dont deux d'entre elles sont dans des états assez avancés, quoi, le Quenya et le Sindarin, qui sont deux langues elfiques. L'une apparentée à la structure, à la morphologie proche du latin, et l'autre sur une morphologie gaélique.
Oui.
Le Sindarin, c'est du Welsh, quoi. C'est du gallois. Il a commencé à imaginer ça en voyant passer des wagons où il était écrit des noms de villes galloises. Tu vois, Llandovery, des trucs comme ça. Et c'est... Les sonorités et la structure, la syntaxe du Sindarin, c'est du gallois.
D'accord.
Alors que pour le Quenya, c'est une structure à laquelle nous, on est beaucoup plus familier, mais un ordre sujet-verbe-complément qu'on va retrouver dans les langues romanes, latines.
Oui.
Voilà. Et aussi dans certaines langues germaniques. Il y a quand même des proximités, quoi, à ce niveau, au niveau de la syntaxe. Mais voilà, c'est deux langues assez différentes, mais c'est deux langues elfiques.
Qu'il a bien développé, en fait.
Qu'ils sont assez développés. Et après, il y a le hobbitique, il y a ce qu'on appelle le Westron, le parler commun. Parce qu'en fait, tous ces peuples avaient une sorte de langue vernaculaire, tu vois, un peu comme le balatin au Moyen-Âge. Voilà, tout le monde baragouinait un peu même genre de truc qui finit par diverger dans différentes langues. Hein, mais il y a le Kuzdoul dont j'ai parlé, la langue des nains. Il y a le Valarine, la langue des Valar. Il y a le Numenorea, ils ont leur propre langue, à Numenor.
C'est absolument incroyable, hein, quand même.
Ouais. Et avec des évolutions phonologiques qui sont celles que peut mettre en évidence un gars dont c'est le métier. C'est-à-dire qu'il y a un linguiste. C'est-à-dire qu'il y a des filiations entre les langues, des parentés, avec, par exemple, des évolutions phonologiques qui répondent aux lois de la phonologie. Enfin, tu vois... Wow. Oui, c'est. Il y a rien de hasardeux.
Ouais, il a vraiment bien réfléchi.
Il
n'y
a rien de hasardeux chez Tolkien. Ouais.
Non. Je sais que moi, une fois, je suis tombé sur une carte de l'univers qui est incroyable aussi. Ouais. Tout est bien défini.
Oui, des cartes qu'il dessinait lui-même d'ailleurs.
Qu'il dessinait lui-même.
Ouais, ouais. Ah, mais c'est un acharné. Elle est juste une anecdote comme ça. Mais je ne sais pas si. Alors, pour ceux qui ont vu les films, ils vont peut-être voir la scène. Ceux qui ont lu les livres, Le Seigneur des Anneaux, la verront aussi. La compagnie, elle rentre dans la Moria. Elle doit passer par la Moria, l'ancien royaume nain, pour passer sous la montagne.
Oui.
Et là, il tombe en fait sur le tombeau de Balin, qui est, je dis pas de conneries, mais un cousin de Gimli. Enfin, pas au même niveau généalogique, mais un cousin. Et là, il y a le fameux livre de Mazarbul. Et dans ce livre de Mazarbul, que Gandalf commence à lire, qui a été écrit par l'oncle de Gimli, on voit qu'il y a de plus en plus de traces de sang, enfin que l'écriture est de plus en plus hachée, et puis ça termine par... on entend les tambours orques,
ah oui.
ils arrivent, et c'est à ce moment-là que dans la scène, on entend les tambours, parce que Pipa a fait l'imbécile à balancer un casque, là, qui fait un boucan pas possible, et qui réveille les orques dans les profondeurs. Et les mêmes tambours se remettent à battre. Et là, ils arrivent et répètent en fait ce qui est écrit dans le livre de Mazarbul. Et ben, Tolkien avait fait un artefact de la page que Gandalf lisait, la dernière page, ils arrivent. Mais il avait pris du parchemin à l'encre. Il avait fait des trous dedans brûlés avec du sang et tout. Il avait fait un fac-similé comme ça du livre de Mazarbul, des dizaines d'heures de boulot. Et ce qu'il aurait voulu, c'est que l'imprimeur en fasse une copie pour intégrer ça
peut-être à la fin du livre
au Seigneur des Anneaux comme illustration
oui.
Et parce qu'il voyait des illustrations partout dans le Seigneur des Anneaux et puis son éditeur lui a dit non mais ça va pas c'est déjà vos 1500 pages c'est un peu longué on va les faire en 3 volumes parce que c'était pas prévu de le faire en 3 volumes hein, ça devait être un seul donc il y a pas 3 tomes en fait
il y a qu'un seul livre
c'est l'éditeur qui a coupé ça en 3 pour réduire les coûts et les risques. Et quant à aller foutre des illustrations de livres de Mazarbul refaits à la maison, c'était niette, c'était hors de prix.
Ah ouais.
Il ne voulait pas prendre le risque. Il aurait pu, hein, note. Quand on voit comme ça marcher, il aurait pu. Mais voilà, mais Tolkien, c'était vraiment un acharné du moindre détail, quoi.
Ah ouais, c'est ce que je constate. Ouais. Toi, tu faisais référence au film tout à l'heure.
Ouais.
J'imagine que tu les as vus, hein.
Ah oui.
Les films de Peter Jackson.
Oui.
Et puis même avant, il y avait aussi quelque chose avant les films.
Alors il y a un dessin animé.
Un
dessin animé de Bakshi.
Moi j'ai connu Le Seigneur des Anneaux avec ce dessin
qui
animé.
Qui n'a pas été jusqu'au bout.
Oui.
Je crois qu'il s'arrête à ce qui correspond au premier découpage, donc le livre 1 et 2 du premier tome, La Fraternité de l'Anneau. Je crois que ça s'arrête là, et peut-être même avant. Je ne sais même pas si ce n'est pas que la moitié en fait que le livre 1. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le dessin animé de Bakshi.
Toi, tu es un peu un spécialiste de l'univers du Tolkien, à force de t'y intéresser. C'est quoi ton regard sur ces films de Peter Jackson ?
Il y a à boire et à manger. Il y a des... Visuellement, c'est énorme, mais ça doit aussi au travail de John Ho et Ted Nasmith, qui sont deux les illustrateurs les plus connus de Tolkien depuis des années, et qui ont été consultants sur le film. Donc les décors Minas Tirith, enfin tu vois, costumes. Ouais.
Ce sont des spécialistes de l'univers de Tolkien
Des illustrateurs. Ah ben, ils sont devenus, hein, ils connaissent vachement bien l'univers de Tolkien, mais au moins d'une manière narrative. Ne serait-ce que ça.
D'accord.
Ils connaissent la narration.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que quand ils font une représentation d'une scène, tu comprends très bien qu'ils connaissent les enjeux qu'il y a derrière la scène qu'ils vont dessiner. C'est vraiment des très très bons illustrateurs. Hein. Les gens qui s'intéressent à Tolkien ont croisé les illustrations depuis longtemps de John Ho et Ted Nasmyth. Et puis ils découvrent les films. Ah. Et ils retrouvent la même iconographie. Okay. Donc en fait, la passerelle, elle est plus facile. Oui. C'est très malin, en fait, de la part des producteurs de... Parce que ça va amener les fans, enfin, on va dire les fans, les amateurs de Tolkien plus facilement vers les films. Le premier volet, j'ai rien à dire. Quand ça commence à partir en lancée de nains, hein, ouais. Ça revient plusieurs fois, ça revient deux fois cette idée. Hein,
ouais,
deux fois. Et il ne s'est pas contenté d'une, ça vient deux fois le lancée de nains. Là, en fait,
c'est bizarre,
Jackson montre qu'à certains égards, il ne comprend rien à ce qu'on appelle la high fantasy. Tu peux faire ça avec un bouquin de Terry Pratchett, le peuple du tapis ou des trucs comme ça, où en fait il y a une espèce de, il y a un décalage complet entre le propos narratif et le regard du narrateur ou du lecteur sur ce qui est en train de se passer. Chez Tolkien, pas du tout, c'est de la, ce qu'on peut appeler de la high fantasy, c'est-à-dire en fait, la high fantasy elle se prend au sérieux. Elle ne permet pas ce genre de décalage.
Oui.
Parce que si tu décales, tu sors de la narration.
Oui, je comprends complètement.
Et là, tu perds le fil.
Oui.
Donc, en fait, tu ne peux pas apporter une coutume de beuverie étudiante des années, je sais pas, moi, 80, 90, le lancer de nains. C'est complètement hors propos. Ça n'a rien à foutre là.
Ouais.
De même que Legolas qui fait du skateboard sur le bouclier dans les escaliers. Non, en fait, ça n'a rien à foutre là. Ouais.
C'est des anachronismes.
C'est complètement anachronique.
Qui ne fonctionnent pas.
Voilà. Ouais. Ça ne marche pas. Alors pour certains vont prendre ça pour argent comptant comme ça, mais en fait moi ça me bloque.
Oui, je comprends.
Hop là, mais là c'est hors sujet ça. Voilà. Sinon bah oui, c'est quand même un boulot, fallait le faire quoi.
Oui,
c'est,
oui, bien sûr.
Enfin il nous a la.
Et puis ça permet.
La charge des Rohirrim dans la bataille du champ des Pélénor, pour ceux qui s'intéressent à la représentation des du militaire dans les films, bah, en fait visuellement il y a trois batailles, enfin il y a. Au total, il y a trois batailles qui sont éclatantes comme ça. Il y a la bataille des champs du Pélénor, il y a les scènes sur la plage dont il faut sauver le soldat Ryan, qui sont hallucinantes, et la bataille des bâtards dans Game of Thrones, qui est hallucinante aussi, quoi. Là, Jackson, il s'est mis à un niveau de représentation épique qui est phénoménal, quoi. La manière dont Théoden passe en revue les rangs, galvanise ses troupes, la charge qui se met en branle, enfin c'est un truc de malade quoi cette scène quoi, c'est la charge sur les Boumakil, ces éléphants géants,
oui,
enfin c'est complètement fou.
Ouais, oui, oui.
Donc là ouais c'est complètement réussi quoi.
Oui,
il y a,
tout à
y a
fait,
quelque chose, il y a un souffle épique là-dedans qui est
qui convient, qui est magistral à l'époque ouais, où ça a été réalisé.
Ouais, oui. C'est juste magistral ça, mais voilà, parfois il y a des libertés avec le ton qui serait bon d'avoir quoi, voilà, pour la narration. Quoi.
Mais... Et puis ça a peut-être permis aussi à faire découvrir, donc, une fois encore, cette histoire aux gens qui n'avaient pas lu le livre.
Oui,
ça a
de toute façon, c'est,
ça.
C'est des passerelles. Hein, chacun peut voir le roman comme il veut, quoi, en fait. Parce que là, au niveau du procédé littéraire, Tolkien, il avait une ligne, c'était contre l'allégorie, l'applicabilité. L'allégorie, quand tu peux faire une allégorie, tu peux dire, par exemple, il y en a, ils peuvent dire « Ah oui, ben les orques, c'est un peu comme les troupes nazies ou l'armée rouge ou les troupes du sultan Mehmed II. » Et tu peux aller plaquer sur les orques une réalité que tu veux. Mais ça, c'est de l'applicabilité. Ça, c'est le lecteur qui décide.
Ah oui.
Et Tolkien était très regardant là-dessus. C'est le lecteur qui doit décider. Une subjectivité, mais qui n'appartient que au lecteur.
Ah oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire.
Qui est donné au lecteur. Tu peux lire le roman comme tu veux. Tu peux y voir les signes que tu veux. Au contraire, l'allégorie, quand un écrivain fait une allégorie, c'est-à-dire où il va, vraiment le procédé littéraire, où il va mettre en balance deux choses qui potentiellement n'appartiennent pas au même monde, mais où il va tisser un lien, lui, consciemment, entre les deux. Mais là, en fait, c'est l'écrivain qui dirige le lecteur, qui lui dit, à ce moment-là de l'histoire, tu dois penser ça. Ça, c'est ça. Tolkien se refusait complètement à cet usage de l'allégorie et préférait le principe d'applicabilité, c'est-à-dire c'est le lecteur qui va appliquer sa propre grille de lecture au roman. Donc ça, c'est un des procédés littéraires hyper présents, c'est ce conflit entre, qui est tranché, hein, il a choisi l'applicabilité.
Entre l'allégorie.
Et le principe d'applicabilité, ouais, ouais. Voilà. Donc il laisse le lecteur libre, en fait, de ce qu'il voit. Bon, quelque part, si Jackson veut voir une scène de surf ou du lancer de nain, bon, ça me gêne, mais...
C'est sa façon de voir la chose.
Voilà, c'est ça.
Quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Et bah, franchement, ça donne envie de venir à ta conférence. Hein.
Bah, oui. Hein j'espère qu'on aurait dû prendre une salle plus grande, alors.
Mais oui, ou alors peut-être, si ça marche bien, qu'il y a vraiment du succès, la refaire.
On fera des cycles, alors, ouais.
Ouais, sur une autre thématique. Oui. Parce que tu peux rappeler la thématique de cette conférence-là
La genèse d'un univers.
La
genèse
d'un univers.
En fait, les sources et affluences qui vont permettre qui vont nourrir et participer à la construction du récit.
Donc là, tu vas parler des premiers elfes et de tout ça, de tout ce
qu'on
a
ça sera évoqué. Ça sera évoqué. Alors, les premiers... Non, je n'avais pas prévu. Mais bon, après, ce que j'ai prévu, par contre, c'est... Alors, j'espère ne pas me gourer, parce qu'une fois... je suis capable de diverger facilement. Il va falloir que je me surveille. Mais normalement, ce que j'ai préparé, ça doit faire à peu près 1h15. Et j'ai décidé de laisser, sur le temps, 3/4 d'heure pour les questions.
Ah, génial.
Ouais.
Super. Comme
ça, il n'y a pas que moi qui parle, il n'y a pas que moi qui... Qui décide de ce dont on parle.
Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient ravis de te poser des questions sur cette thématique.
Et donc
thématique.
Ça, bah, on pourra... Oui, peut-être qu'il y aura un deuxième cycle.
Ah, bah, franchement,
mais
on le souhaite.
Je le dis là maintenant, sans y avoir vraiment
pensé
avant.
Sans y avoir réfléchi.
Mais je me dis, moi, ça m'embêterait qu'il y ait tellement de monde qu'on doive dire, ben non, désolé, c'est fermé. Ou alors vous passez la conférence debout, appuyé contre le mur. C'est pas jouasse, quoi, comme condition, quoi. Donc, voilà.
Bon.
Vous inquiétez pas, on essaiera d'en faire d'autres.
Eh ben voilà, vous avez compris, c'est la première conférence, vendredi 17 avril. On le rappelle, à la salle de motricité, c'est juste sous l'école de Châtillon.
C'est ça, sous l'école, dans les escaliers, là, pour ceux qui voient un peu, entre le haut du village et la rue principale. Voilà.
C'est à 18h précises.
Voilà. De toute façon, on vous guidera si vous vous rendez à la bibliothèque de Châtillon, c'est-à-dire à la mairie. Ben, ce sera indiqué, il y aura des gens pour vous dire comment vous rendre à la salle de motricité si vous ne connaissez pas le lieu.
Bah ouais, génial.
Voilà.
Et c'est entrée libre.
Et c'est entrée libre. Donc ça, c'est... Oui, ça, c'est, j'y tenais quand même. Quoi.
Bienvenue à toutes et à
oui.
tous. Hein.
Oui.
Super Sébastien, merci beaucoup
eh ben,
d'être venu nous
Avec plaisir.
Parler de cette conférence.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Au revoir.
À la prochaine, ciao. Humains n'appréciaient pas tellement les elfes. En fait, ils ne les comprenaient pas toujours. Ils jalousaient leur longévité.
Ah oui.
Alors que les elfes les plus malins, on va dire les plus sages, jalousaient les hommes. Parce qu'en fait, c'est ça la grosse différence en fait, entre eux. C'est les elfes, leur corps et leur esprit sont faits de la substance d'Arda, de la même substance que la Terre. C'est pour ça qu'ils parlent aux animaux, aux arbres. Légolas est capable de dire que les pierres pleurent et racontent ceci et cela. Ils peuvent même parler aux pierres, quoi, les elfes. Parce que leur esprit et leur corps sont de la même substance qu'Arda. Tandis que les humains, leur corps est de la même substance qu'Arda, donc de la même substance que celui des elfes. Hein. Il peut être détruit par la blessure. Ils peuvent être tués tous les deux.
Bien sûr, oui, oui.
Sauf que les elfes, en gros...
Ils ont une résistance peut-être un peu...
Largement plus forte, et puis ils peuvent se réincarner.
Ah.
Ils peuvent revenir. En tout cas, ils vont au moins aller sur les terres immortelles. Leur destin, il est connu.
Okay.
Le destin des hommes, quand ils meurent, il est inconnu. Ils ont une vie très courte. Par contre, comme leur esprit n'est pas fait de la substance d'Arda, le jour de la fin des temps, quand Arda sera détruite, ce qui arrivera, eh ben là, les elfes disparaîtront en même temps qu'Arda. D'accord. Puisque corps et esprit sont de la même substance qu'Arda. Si Arda disparaît, les elfes disparaissent. Les humains, non.